Bien, bonsoir. J'ai la charge d'animer cette conférence débat. Je vous présente les deux intervenants. À ma gauche, Pierre Clément, qui a collaboré à un livre qui a fait date il y a quelques courtes années. Je vous le présente, je vous le rappelle, si vous ne le connaissez pas, c'est la nouvelle école capitaliste. À ma droite, Grégory Chambat, qui a, lui, écrit ce livre qui s'appelle « Pédagogie et révolution ». Alors, on est très content, évidemment, de les accueillir, parce qu'ils vont nous aider, Grégory Chambat et Pierre Clément, vont nous aider à remonter le fil de l'histoire de l'école française en particulier. Alors, on espère, enfin, j'en suis sûr, que nos deux intervenants vont nous aider à comprendre ce qu'est devenue l'école, pour mieux discerner le sens des critiques contemporaines qu'on lui porte. J'en évoque quelques-unes, rapidement. On nous dit tantôt que l'école n'est pas adaptée au monde des entreprises, tantôt qu'elle est trop adaptée au monde des entreprises. On nous dit qu'il faut qu'elle s'adapte à la société. Et on nous dit, au contraire, qu'il faut former des gens qui soient aptes à critiquer la société. On nous dit que l'école a raté sa mission de démocratisation au sens où les inégalités scolaires augmentent. On nous dit que l'école est incapable de transmettre le patrimoine culturel. On nous dit que l'école n'est plus capable de justifier les inégalités de place par le mérite. Bref, il me semble que depuis quelques années, on a beaucoup de mal les uns les autres, c'est mon cas en tout cas, à comprendre la place de l'école dans la société, à comprendre la philosophie de l'école et l'articulation de l'école à un projet politique. Alors, je vais très vite laisser la parole aux intervenants. Je voudrais simplement ouvrir ces interrogations par un paradoxe. Le président de la République, on vit un moment assez particulier, la gauche, enfin disons le Parti socialiste, a gagné les élections. Et il y a eu un discours assez paradoxal d'emblée. Le président de la République fait d'un côté une célébration ou une évocation de Jules Ferry. Et de l'autre côté, son ministre de l'Éducation nationale parle de refondation. Est-ce qu'on est dans une continuité avec un projet scolaire qui remonterait très très haut, ou est-ce qu'on est dans une discontinuité, puisqu'il s'agirait de refonder l'école et de recommencer dès les racines ou à la base? Donc c'est ce paradoxe qui m'a intéressé, continuité, discontinuité. Est-ce que l'école d'aujourd'hui a un lien, et lequel, avec l'école d'hier? J'aimerais peut-être qu'on demande, pour ouvrir cette question de qu'est-ce que l'école aujourd'hui, continuité, discontinuité avec l'école d'hier, laisser la parole à Pierre Clément.
Bonsoir, merci de cette introduction. Comme on vous l'a rappelé, j'ai participé à un livre qui s'appelle La nouvelle école capitaliste, et c'est évidemment une référence à un livre qui est apparu 40 ans avant le nôtre, le livre de Christian Baudelot et Roger Establé, qui est donc apparu en 1971, et qui s'appelait L'école capitaliste en France. Donc, en réponse à l'introduction, je vais essayer de justifier dans mon intervention ce plagiat infâme, et justifier le mot nouvelle. Mon intervention va porter essentiellement sur la période qui va des années 1980 à nos jours, et je vais essayer de mettre en évidence les conditions d'une rupture, rupture qui correspond à l'introduction et à la consécration de logiques néolibérales au sein du système d'enseignement. Tout ça en un quart d'heure. Inch'Allah. Alors, pour clarifier un peu les choses, je laisserai de côté la question de la marchandisation de l'école, à savoir Donc ça fait l'objet d'un chapitre dans le livre, mais l'éducation comme source de profit et comme un des marchés, au même titre que celui des matières premières, du pétrole ou des matières alimentaires pour le capital. Donc c'est pas de cela dont je vais parler. Alors la thèse que je voudrais défendre, c'est qu'on ne comprend ce succès du néolibéralisme à l'école et cette rupture que moi et mes collègues, on date des années 1980, que si on a conscience qu'elle se joue dans une espèce d'alliance de circonstances entre des hauts fonctionnaires modernisateurs, plutôt proches de la gauche socialiste pour être exact, hauts fonctionnaires convertis à la nouvelle gestion publique et au nouveau management public, et alliance donc de ce groupe avec des militants pédagogiques. Donc je voudrais montrer ça en deux temps, puisque j'ai été bien élevé. D'abord en revenant sur le discours de crise ou le discours de sens commun qui a été au principe de cette alliance a priori contre nature et qui a justifié les réformes. Discours qui emprunte à la fois disons, une critique managériale ou gestionnaire de l'administration et une sociologie critique des inégalités scolaires. Et dans un deuxième temps, je voudrais revenir sur les conditions de l'accord entre ces deux groupes et sur ce qui a rendu possible le succès de la réforme. Ce qui m'amènera à conclure sur l'avant-dernière loi, ou plutôt la dernière loi encore en date sur l'éducation, à savoir la loi de 2005. S'agissant de la première partie sur les discours de crise qui ont justifié la rupture. Premier point, j'ai dit, c'est un discours qui emprunte à un réformiste gestionnaire. C'est tout le discours autour de l'école bloquée, l'école irréformable, coincée par les corporatismes, par secteurs d'action publique représentatifs de l'immobilisme, etc., etc. Donc je passe assez vite sur ce discours, puisqu'on a peu de temps, mais je pense que tout le monde le connaît, l'a entendu et peut-être trop entendu. Ce n'est pas un discours nouveau. En 1970, Michel Crozier faisait paraître un livre qui s'appelait « La société bloquée ». Et en 1971, une historienne qui s'appelle Suzanne Citron faisait paraître un livre qui s'appelait « L'école bloquée ». Donc dans cette période des années 70, où se développe toute une critique de l'État et des modes traditionnels de l'intervention de l'État, l'école n'échappe pas à cette critique, donc portée à la fois par donc, des gens comme Michel Crozier, mais aussi des historiens, des politistes ou des hauts fonctionnaires de l'éducation nationale. Évidemment, le mot le plus célèbre qui résume ça, c'est un mot plus contemporain, celui de Claude Allègre, qui avait désigné, vous en souvenez tous, l'éducation nationale comme le mammouth, ce qui désigne bien une espèce d'objet préhistorique, on ne sait pas trop d'où il vient, et très très lourd, évidemment, à déplacer. Face à cette situation, s'est développé tout un discours sur l'autonomie, sur l'autonomie locale notamment, sur la nécessité de laisser de la liberté aux acteurs et aux échelons locaux, de faire surgir des initiatives locales, de décentraliser, de déconcentrer, de moderniser l'administration et l'État en général, l'administration scolaire en particulier. Juste pour dresser un parallèle, on peut repérer des discours un peu similaires dans un autre secteur emblématique de l'action publique et de l'intervention de l'État, celui de la santé. Je renvoie notamment aux travaux de Frédéric Pierru ou de Nicolas Bellorger qui ont travaillé cette question et qui montrent comment, là encore, des économistes, des hauts fonctionnaires ont tenté de casser la régulation professionnelle qui était en vigueur dans le monde médical, c'est-à-dire la régulation du monde et le gouvernement du monde médical par les médecins eux-mêmes, donc pour y substituer plutôt le règne, la domination des managers, pour le dire très très vite. Donc ça, c'est le premier élément du discours de crise que je voulais souligner. Le second, C'est un discours qui emprunte son vocabulaire et ses concepts, ses mots d'ordre à la sociologie critique de l'éducation, dont il a été question, il me semble, ce matin, avec des concepts comme celui de l'handicap socioculturel qui est mobilisé pour expliquer l'échec des classes populaires devant l'enseignement. Donc là aussi, je passe assez vite, mais j'insiste sur ces deux courants, disons, pour rappeler qu'ils se rencontrent véritablement dans les années 1980, dans plusieurs cercles. S'agissant des hauts fonctionnaires modernisateurs, il y a une association qui s'appelle Service Public, et je porte mal ou bien son nom, à vous de voir, qui réunit des hauts fonctionnaires socialistes essentiellement, dont beaucoup de hauts fonctionnaires de l'éducation nationale, mais pas que, mais beaucoup d'entre eux, viennent de l'éducation nationale. Et cette association va être un peu le laboratoire de la réforme du service public. Un premier moment où ces deux courants vont se rencontrer, c'est la loi d'orientation de 1989, qui est à la fois une loi pédagogique et managériale. Sur ce point, je peux renvoyer aux travaux de Bertrand Gé, ici présent, et de Sylvia Abichère, qui est une jeune docteur qui a fait sa thèse sur cette loi, et qui montre que la rhétorique réformatrice de Jospin emprunte à la fois à la critique pédagogique, voire sociologique, des contenus d'enseignement, de l'organisation du système scolaire, mais aussi à un répertoire managérial, modernisateur, qui lui vient plutôt du premier courant. Également, dans ces années 80, un autre élément de rupture, il me semble, qui n'est pas directement lié à ce que je viens de dire, mais il faut quand même le signaler, c'est le renoncement de la gauche socialiste, au service public unifié laïque de l'éducation nationale en 1984, qui représente une espèce de renoncement historique à une des revendications qui était au cœur des revendications de la gauche en matière d'enseignement. Et c'est aussi le moment où on assiste aux premières expérimentations de libéralisation de la carte scolaire. Et si on a pu lire, évidemment, l'abandon donc du projet Savary dans les années 84 comme une défaite laïque, on peut aussi y voir un premier succès du marché scolaire, puisque libéraliser la carte scolaire tout en parallèlement renforçant le secteur privé, ça participe de la construction d'un marché scolaire. Alors, ceci étant, les prémices de la rupture me semblent présents dès ces années 80, mais je voudrais expliquer maintenant un peu comment s'est jouée sa concrétisation effective ou sa consécration. Alors, deux points là-dessus, avant de conclure sur la loi de 2005, puisque je réserve quelques mots sur la loi d'orientation actuelle pour la deuxième partie du débat. Première condition de l'accord entre ces différents réformateurs de l'enseignement, c'est d'abord la polysémie des termes employés par les uns et les autres. Donc d'abord cette polysémie et ensuite des ennemis communs, à savoir essentiellement l'enseignement secondaire et son organisation pédagogique fondée sur les disciplines, les programmes nationaux et les horaires nationaux. Alors la polysémie des termes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres domaines que l'éducation. C'est la polysémie de termes comme celui de projet, de contrat, d'objectif, et celui sur lequel je vais plus insister, celui de compétences. Pourquoi j'insiste davantage sur le sur la question des compétences. Un, parce que c'est celle que j'ai le plus travaillée, mais aussi parce qu'elle me semble être tout à fait révélatrice de l'intrication qu'il peut y avoir entre des dimensions pédagogiques de la réforme et dimensions managériales. La notion de compétence, tous les gens qui ont travaillé dessus montrent que c'est une notion qui n'a pas vraiment de statut scientifique clairement défini et solide. Marcel Crahe, qui est un chercheur qui était plutôt au départ pour la logique des compétences, a parlé de caverne d'Ali Baba conceptuelle ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça exactement. Dans lesquels il dit qu'il est possible de rencontrer juxtaposés tous les courants théoriques de la psychologie, quand bien même ceux-ci sont en fait opposés. Donc ça, c'est pour souligner l'indétermination scientifique et conceptuelle de la notion de compétence. Donc la notion de compétence, ça peut se revendiquer de la pédagogie par objectif, de la pédagogie fonctionnelle, de la pédagogie du contrat. Ça peut être, par exemple, expliciter plus clairement les objectifs de l'enseignement, dans une perspective qui peut rappeler la pédagogie rationnelle que prônaient Bourdieu et Passeron, avec l'idée qu'en explicitant mieux et davantage les objectifs du système d'enseignement, on réduira le malentendu pédagogique et partant l'échec scolaire. Donc une exception plutôt progressiste. L'idée aussi des compétences, un peu dans la même veine, donc plutôt... c'est de dire définir les objectifs de formation de manière plus précise, ça permet de passer un contrat clair entre l'enseignant, l'État et les élèves. C'est-à-dire que l'État et les enseignants s'engagent à faire acquérir aux élèves tout un tas d'éléments de savoir, dont des compétences, et on ne renonce pas tant que ces éléments de savoir ne sont pas effectivement transmis. Bref, je pourrais continuer la liste, mais la notion de compétence, elle a aussi des racines différentes que l'on peut chercher dans le monde du travail et notamment dans les changements dans le management des entreprises qui se font jour dans les années 80. La compétence, de ce point de vue-là, ça peut être analysé comme une mise en question de la définition des qualifications professionnelles fondée sur la durée de la formation et les conventions collectives, avec l'idée que passer des qualifications aux compétences, ça rentre donc dans la logique d'une individualisation aussi des relations de travail. Et c'est à cette condition d'avoir en tête ce sens plus économique, pour le dire très très vite, de la notion de compétence, que l'on peut comprendre le glissement progressif vers une notion plus utilitariste, une version plus utilitariste de la notion de compétence. Alors, pour comprendre ce glissement et par là même le succès des réformes néolibérales, il faut se tourner vers un acteur que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent. À savoir l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Cette organisation n'a pas historiquement de compétences particulières en matière d'enseignement. Elle va en quelque sorte s'auto-saisir de ces questions, essentiellement à partir de la fin des années 1980. Et dans les années 1990, l'OCDE va se mettre en tête d'élaborer une définition des compétences parce qu'elle a comme projet d'évaluer et de comparer à l'échelle internationale les différents systèmes éducatifs. Et donc, il faut se donner des indicateurs permettant de comparer des systèmes éducatifs qui sont chacun fondés sur une histoire spécifique, qui ont donc chacun des objectifs propres, et des programmes, des contenus d'enseignement spécifiques. Donc en 1993, l'OCDE lance un projet qui s'appelle Cross Curricular Competencies. Et donc l'idée, c'est vraiment celle-ci, c'est d'avoir une définition des contenus de l'enseignement, donc de ce que produit la communication pédagogique, qui ne soit pas une définition purement scolaire. Du coup, ce qui est attendu, ce n'est pas de connaître comme l'ont appris en tout cas mes grands-parents, les sous-préfectures et les fleuves de France. Voilà, en gros, ça ne sert à rien. Et surtout, c'est du savoir périssable, en quelque sorte. Alors, plutôt qu'un long discours, je vais vous lire une citation. L'OCDE est assez prudente dans ses travaux, malgré tout. Pas tout le temps, mais parfois, oui. En 1997, par exemple, elle dit que son objectif consiste à identifier et définir un ensemble de compétences les plus pertinentes qui sont vitales pour les individus dans l'optique d'une vie réussie et responsable et pour la société pour faire face aux défis du présent et du futur. Ce qui est une définition relativement consensuelle et finalement un peu fade sur laquelle tout le monde peut a priori s'entendre. Cela étant, dans d'autres écrits, on trouve des définitions qui sont plus ouvertement utilitaristes. Par exemple, celle-ci. La plupart des pays de l'OCDE accordent une grande importance à la flexibilité, à l'esprit d'entreprise et à la responsabilité personnelle. On attend non seulement des individus qui aient des facultés d'adaptation, mais également qu'ils soient novateurs, créatifs, autonomes et capables de se motiver d'eux-mêmes. Alors là, évidemment, il y a une espèce de glissement et on est de ce point de vue assez loin de la pédagogie par objectif ou de la pédagogie du contrat. Alors, ceci étant, je voudrais donc terminer en montrant comment ces différents courants se sont rencontrés à l'occasion des débats sur la dernière loi d'orientation, donc la loi dite Fillon du 23 avril 2005, qui a été préparé dès l'automne 2003 par une commission nationale du débat sur l'école qui était présidée par Claude Thélot, commission qui faisait suite à des mouvements extrêmement importants dans l'éducation nationale à propos notamment des retraites et avec aussi des questions plus spécifiques à l'éducation nationale. Alors, il faut rappeler donc quelques éléments. Donc c'est la droite est au pouvoir, Luc Ferry, puis François Payon, non François Fillon, est chargé de préparer la réforme, une espèce d'incarnation idéale typique de ces hauts fonctionnaires modernisateurs dont j'ai parlé, en l'occurrence Claude Thélot. Qui est polytechnicien, qui a des compétences en statistique, qui a été responsable de la direction de l'évaluation de la prospective au ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est pour la commission. Et au ministère, ce sont des représentants d'un conservatisme pédagogique et scolaire de bon aloi, Ferry, puis Fillon. Alors, cette loi va. Je passe sur un peu le processus qui a permis son succès, mais va introduire quelques ruptures, et je voudrais terminer là-dessus. La première rupture, c'est la faculté d'expérimenter et d'introduire des dispositifs dérogatoires. C'est l'article 34 de la loi. Ce qui va permettre justement c'est l'idée justement de donner plus d'autonomie aux acteurs locaux et de les libérer un peu des carcans de la régulation nationale. Mais le cœur de la réforme, c'est un article de loi qui s'appelle le socle commun de connaissances et de compétences, qui a cette particularité d'être à la fois une réforme pédagogique et également une réforme gestionnaire, qui traduit bien ou qui consacre bien la pénétration de l'éducation nationale des principes néolibéraux. Et donc je vais essayer de dire pourquoi en 2 minutes. Le socle définit, a priori c'est une réforme pédagogique, parce que ça définit ce que l'ensemble des élèves doivent avoir acquis à la fin de la scolarité obligatoire. Et ça liste donc 7 compétences. Premier succès, disons, de l'utilitarisme pédagogique, c'est que les compétences 6 et 7 du socle ne renvoient précisément pas à des compétences ou à des disciplines, plutôt à des disciplines scolaires, puisqu'il s'agit de compétences qui relèvent plus des attitudes ou des savoir-être, à savoir les compétences sociales et civiques, d'un côté et l'autonomie et l'esprit d'initiative de l'autre. Donc ça, c'est pour, si vous voulez, le volet pédagogique, pour le dire très très vite. S'agissant maintenant des logiques managériales, le socle, si vous voulez, l'idée est la suivante, c'est si on va plus avant dans la mise en concurrence des établissements entre des élèves, entre des académies, entre eux, et plus largement des différents systèmes éducatifs nationaux entre eux, il faut un élément de cohérence ou de stabilité. Et comme sur le marché du travail, vous avez le SMIC, sur le marché scolaire, vous aurez en quelque sorte le socle. C'est-à-dire, peu importe l'établissement dans lequel vous vous trouverez, qui pourra être donc assez fondamentalement différent des autres établissements, mais il y aura en commun cette espèce de base culturelle commune. Concrètement, l'introduction du socle, ça s'accompagne d'instruments à la fois pédagogiques et technocratiques, que sont notamment les évaluations nationales en CE2 et en CE1 pardon et en CM2, ou encore le livret personnel de compétences. L'idée dans les deux cas, c'est que l'école s'assigne une obligation, je cite, de résultats effectifs et vérifiables. L'idée, comme le dit Gilles de Robien, qui succède à François Fillon, c'est que désormais l'école est capable de s'adresser directement aux parents et aux Français pour leur dire « Voilà ce que tous les enfants doivent savoir à la fin de la scolarité obligatoire, voilà ce que la nation s'engage à leur apprendre ». Et puisque c'est précisément le socle qui est à la base de ce contrat qui lie la nation et son école, cette logique est amenée à se décliner à tous les échelons du système d'enseignement. L'idée, c'est que l'introduction du socle est indissociable d'une exigence d'évaluation. Et donc ça se décline à tous les échelons, puisque une académie doit, pour avoir des moyens, signer un contrat d'objectif avec le ministère, qu'une circonscription d'éducation primaire doit faire de même, et que les établissements, eux aussi, doivent faire de même. Donc, pour terminer là-dessus, le socle, c'est à la fois, et la loi de 2005, c'est à la fois le succès d'un certain utilitarisme pédagogique et également d'une réorganisation managériale ou gestionnaire du système d'enseignement qui se fonde, dont le principe est la mise en concurrence de tous contre tous à tous les échelons, ce qui caractérise en propre, à notre sens, le néolibéralisme. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Donc, si on t'a bien compris, si je t'ai bien compris, tu caractérises l'école d'aujourd'hui comme étant une école en rupture assez nette, assez marquée avec l'école qui précède. Tu as évoqué un certain nombre de choses pour préciser et justifier ces ruptures et ces discontinuités. Cela dit, c'est que tu supposes, enfin, en creux, tu dessines une école avant qui était fort différente de celle-ci. J'aimerais demander maintenant à Grégory Chambas, qui a, lui, travaillé sur des durées plus anciennes de l'école, s'il s'y retrouve dans cette présentation d'une école en rupture, ou si, peut-être au contraire, il voit dans l'école d'aujourd'hui plutôt des traits de continuité avec l'école qui précède. Grégory.
Oui, c'est un petit peu la question sur laquelle je voulais intervenir, c'est cette histoire de rupture. Alors, là, on a eu 15 minutes pour 30 ans. Moi, je vais faire 150 ans en 15 minutes. Donc, je vais prendre deux précautions avant de commencer. La première, c'est que quand on parle d'école, d'éducation, on est forcément au sein d'une institution ambiguë et que s'y jouent des choses qui peuvent être contradictoires entre domination et émancipation. C'est jamais très évident de faire la part des choses. Et donc pour cet exposé et pour essayer de clarifier un petit peu les choses, je m'en excuse par avance, mais je vais être un petit peu dans la caricature pour essayer de poser un certain nombre de jalons et de remonter à ce que tu disais, Jean-Charles, à ce Jules Ferry là, qui commence notre histoire et puis qui, au mois dernier, a fait l'objet d'une célébration de la part du nouveau président de la République. Donc d'être un petit peu dans la caricature pour essayer de donner des billes, pour savoir qu'est-ce que c'est que cette école-là dans laquelle nous avons tous ici dans la salle vécu, qui nous a formés, qui nous a appris et qui nous a appris surtout une chose, et peut-être c'est une de ses missions prioritaires, ça nous a appris ce qu'était l'école. Hein, l'école, elle sert d'abord, il y avait Illich qui disait... au-delà de ce rôle-là, c'est que l'école est l'agence de publicité qui nous vend le monde tel qu'il est. Hein. Donc cette école, on a, je vais commencer par le départ, on l'a définie tous, nous, l'école, je parle l'école de la République, hein, l'école publique, comme une école gratuite, laïque et obligatoire. Père fondateur, monsieur François Hollande l'a rappelé, Jules Ferry. Or, il se trouve que non. Il se trouve que pour la première fois en France, la première école gratuite, laïque et obligatoire, elle n'a pas du tout été instaurée par Jules Ferry dans les années 1880, mais elle a été instaurée par la Commune de Paris, 10 ans plus tôt. Une Commune de Paris que Jules Ferry connaît très particulièrement bien, puisqu'il en était maire au moment du déclenchement de l'insurrection. Alors, il avait mérité à ce moment-là le surnom de Ferry la famine. Et si je parle de cette première école gratuite, laïque, publique et obligatoire, 10-15 ans avant celle de Jules Ferry, c'est parce que, à mon avis, va se jouer là, alors je vais essayer de le faire très bref, mais l'existence de deux conceptions de l'éducation, deux conceptions de l'école qui traversent la société avec plus ou moins des phases de visibilité et puis des moments où les choses, comme en ce moment là, où les choses sont moins visibles, mais deux conceptions que je vais essayer de vous présenter à grands traits, pour comprendre, peut-être pour essayer de comprendre où se joue la rupture, la continuité entre une école capitaliste et une école que M. Jules Ferry qualifiait, quant à lui, l'autre école de socialiste ou communiste. Alors je vais partir d'une... Je ne vais pas vous abreuver de citation, mais la première citation, elle est intéressante parce qu'elle pose, au-delà de tout ce qu'on a appris, nous, sur les raisons de la création de l'école de Jules Ferry, à savoir la revanche de la guerre de 1870, la nécessité de former une main-d'œuvre, le combat contre l'Église catholique et son poids dans la société, Jules Ferry lui-même introduit un troisième élément pour justifier son intention de créer une école pour le peuple. Alors il dit, c'est un discours qu'il fait auprès de ses électeurs peu de temps avant la présentation des lois, il dit « Dans les écoles confessionnelles, donc là il parle des écoles de l'Église catholique, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes, la Troisième République. On y exalte l'ancien régime et les anciennes structures sociales. » Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871. Donc, parmi les éléments qui font que Jules Ferry va proposer cette création d'une école laïque, gratuite et obligatoire, on a cette crainte, le fait que Jules Ferry redoute que les ouvriers, que la population, que le peuple puisse se mettre à s'éduquer lui-même, comme il en a exprimé l'intention et comme il a essayé en 70 jours au moment de la Commune de Paris, mais déjà à travers un certain nombre de réflexions issues du mouvement ouvrier, comme il a essayé de le faire à cette époque-là. Donc je pense qu'il faut garder dès le départ en tête l'idée que cette école de la République, c'est une école qui correspond à un projet social, un projet de société, et qui correspond à une lutte entre des classes, on va dire, entre des intérêts, entre des projets, entre des visions de la société. Alors je vais aller très vite pour également vous présenter ce que disaient les communards, parce que si Jules Ferry nous dit qu'il redoute cette école, excusez-moi, qu'il redoute cette école de la commune, on aimerait bien un petit peu savoir pourquoi est-ce qu'il en est. Alors, il y a un de ces communards qui s'appelle Henri Bélanger, qui est journaliste, et qui écrit dans un journal qui s'appelle Le Vengeur, alors la date exacte, c'est 18 mai, je crois. À quoi correspond ce projet éducatif porté par le mouvement ouvrier? Alors, il écrit... Il est nécessaire que l'enfant passe insensiblement de l'école à l'atelier, devienne en même temps capable de gagner sa vie et apte au travail intellectuel.
Il faut que chaque ouvrier, chaque homme occupé à un travail physique, puisse écrire un livre avec sentiment et talent, sans quitter son établi. Donc voilà un petit peu le projet opposé, celui que redoute Jules Ferry, et qui a été résumé par quelqu'un qui a travaillé sur cette période, qui s'appelle Jean Foucambert, et qui explique qu'en fait a été instaurée à ce moment-là, à travers les lois scolaires de Jules Ferry, une école pour le peuple et non pas une école du peuple. C'est-à-dire une école qui a été pensée, organisée, mise en place, établie par la classe dominante, au lieu d'écouter ou d'entendre les aspirations des dominés. Alors, une école pour le peuple, il a fallu d'abord très, très fortement la circonscrire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que cette école de Jules Ferry, père fondateur, là, dont nous a parlé François Hollande, c'est une école de la ségrégation sociale. C'est une école dans laquelle il y a deux systèmes. Il y a un système pour le peuple, gratuit, mais limité dans le temps, l'école primaire, c'est l'école du peuple. Et il y a un autre système, totalement hermétique, qui est ce dont tu parlais, là, l'école, le collège, le lycée, le petit lycée qui prépare à cette formation-là, qui lui est payant et qui est réservé à l'élite, qui est réservé aux enfants de la bourgeoisie et aux classes dominantes. Et pour Jules Ferry, il n'y a aucune contradiction entre cet idéal, la démocratique d'école pour le peuple, auquel on va essayer de, dans lequel on va essayer de résoudre une équation qui traverse un petit peu tout le XIXe siècle, hein, de Guizot en passant par Cousin jusqu'à Jules Ferry. On a cette problématique-là qui est que, d'abord, contrairement à ce qu'on peut croire, ils pensent, ces gens-là, que c'est l'ignorance qui rend le peuple turbulent et féroce. Ça, c'est une citation de Cousin ou Guizot, j'ai un doute là sur. Mais bon. Et que donc, pour pouvoir contrôler le peuple, pour pouvoir l'amener à répondre à cette révolution industrielle là, et à cet essor du prolétariat auquel on assiste tout au long du XIXe siècle, eh ben, il ne va pas falloir le laisser dans l'ignorance, il va falloir l'éduquer. Il va falloir lui transmettre le maximum de savoir nécessaire au développement industriel du pays, à la fabrication, on va dire, d'abord de bons soldats, hein, parce qu'il y a la revanche et il va falloir prendre cette revanche en 1914, mais de bons citoyens aussi pour établir la République, qui reste encore fragile. Et donc il va falloir réussir à poser cette question, enfin y répondre surtout, savoir comment transmettre le maximum de savoir en enlevant le potentiel émancipateur que pourrait représenter ce savoir. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'idée que plus on est cultivé, plus on sait de choses, plus on va avoir tendance à être étonné, révolté par les injustices, par l'organisation, par les inégalités, par tout un tas de choses, par les scandales financiers, etc. Voilà, le pari qui est fait par la classe dominante, c'est que en contrôlant bien sa voix, en faisant, et c'est là où on retombe sur les deux citations, en faisant quoi? En faisant le contraire de ce que disaient les communards, c'est-à-dire en faisant du savoir et de sa transmission une simple consommation. C'est-à-dire qu'on va faire que les enfants vont simplement recevoir un savoir, alors que le projet communard dont je parlais tout à l'heure, il s'agit de produire des choses, mais aussi de produire du savoir, d'être dans la production. Alors on a eu une discussion tout à l'heure sur le mot production, je l'entends aussi dans le sens création. Pas simplement fabriquer des choses, mais créer des choses. Et je pense qu'on a, comme ça, depuis Jules Ferry, hein, je vous la fais courte, hein, mais ces deux systèmes, ces deux conceptions de l'éducation qui s'opposent et qui sont pour moi, inconciliables et totalement opposées. Alors, quand je raconte ça, on dit, oui, d'accord, mais comment ça se fait qu'on n'a pas ces informations, ces billes, etc. Ben, il se trouve qu'au moment où les lois scolaires de Jules Ferry sont votées, on est dans la suite de la Commune de Paris et que le mouvement ouvrier, à ce moment-là, il est écrasé. Les syndicats ne sont pas encore constitués. Hein, c'est 1884, la loi sur les syndicats. Il faudra attendre encore 10 ans pour que la CGT soit constituée. Et donc, les débats, à l'époque, se limitent, c'est déjà pas mal, mais à une discussion et un combat, certes virulent, entre deux écoles. L'école religieuse et l'école de la République. D'accord ? C'est ce qu'on en a retenu. Deux écoles qui ont rigoureusement le même modèle éducatif et pédagogique. c'est l'héritage des frères des écoles chrétiennes, le système de répartition par classe, la pédagogie frontale, l'apprentissage du par cœur, le regroupement en fonction de l'âge, du niveau, etc. C'est l'héritage de l'enseignement qui avait été mis en place par, si j'ai le temps, excusez-moi la digression, mais il me reste 2 minutes.
Commencer à 37.
D'accord. Ah oui, il y a une... Donc, si j'ai le temps, très rapidement, sur les systèmes d'éducation... Il y a 3 méthodes d'apprentissage. Il y a la méthode individuelle. La méthode individuelle, c'est celle qui va sévir jusqu'à sévir, qu'on va retrouver en France jusqu'au milieu du 19e siècle, où un maître va apprendre successivement à un élève, va lui transmettre des connaissances. Donc il va apprendre un élève, et puis pendant ce temps-là, les autres, ils ont une autre activité, pas forcément d'ailleurs une activité scolaire, mais ça tourne, voilà, donc on est dans du face-à-face. Et puis pendant 10, 15, 20 minutes, on va transmettre des connaissances et puis après on passe au suivant. Il y a une deuxième méthode qui est la méthode de l'enseignement simultané où un seul maître va enseigner à un groupe d'élèves en même temps la même chose. C'est celle qui est mise en place dans les, ce que je disais, les frères des, dans les écoles des frères, dans les écoles des frères, du coup je suis obligé de répéter, des écoles chrétiennes. Et ce système, il implique un perfectionnement assez important, et en particulier le fait qu'il faut que les élèves qui se trouvent en face, on est en pédagogie frontale, en face du maître, aient le même niveau. Donc il va falloir mesurer aussi ce niveau, parce qu'on ne peut pas mettre celui qui ne sait pas lire avec celui qui sait déjà lire. On va lire tous ensemble le même livre, et l'un après l'autre, on va lire la une phrase, puis une autre. Pierre, tu continues, à toi Jean, Julien, etc. Des noms de garçons, surtout, pas de filles pour l'instant. Et donc c'est ce qu'on appelle la pédagogie simultanée, avec la division par classe. Et c'est cette pédagogie-là qu'on va retrouver, qui va être reprise à partir de Guizot, surtout, c'est lui qui la confirme comme modèle, puis par Jules Ferry. Et il existe un troisième modèle, qu'on appelle l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel, c'est un enseignement qui a été importé d'Angleterre à la toute fin de l'Empire, vers 1815. Alors là, il est remarquable, hein, pour l'OCDE, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va, avec un seul maître, pouvoir enseigner à 200, 300, 400 élèves. Alors dans certains textes, on trouve même 800, mais ça sent un peu quand même le texte de propagande et de publicité un peu abusive. Mais tout simplement, enseignement mutuel, parce qu'on va permettre, on va organiser les cours en faisant rentrer d'abord des élèves qu'on va appeler des élèves moniteurs, auxquels le maître va présenter la leçon à une dizaine ou une vingtaine d'élèves. Il va leur faire le cours, je ne sais pas, de maths, par exemple, leur apprendre à faire une addition. Et puis ensuite, on va faire rentrer les autres élèves et auxquels ces moniteurs vont ensuite raconter ce que le maître leur a dit et puis leur présenter cette même leçon. Donc on voit bien que le système, à condition d'avoir une discipline de fer et une organisation vraiment très très rigoureuse, il peut démultiplier quasiment à l'infini les possibilités pour un seul maître. Extraordinaire en termes d'économie, ça séduit beaucoup la haute bourgeoisie et les gens qu'on appelle à l'époque les philanthropes. Le roi lui-même met dans la caisse là, pour ses innovations pédagogiques, mais ça va s'arrêter pour 2 problèmes, c'est que le premier, par rapport au contenu. On peut très bien apprendre comme ça à lire, à écrire, à compter. Les enfants se répondent eux-mêmes, s'expliquent, donc ça marche très bien, il y a beaucoup d'autonomie. Par contre, le catéchisme, c'est plus gênant. C'est-à-dire que une fois que le maître a expliqué un certain nombre de principes aux enfants et qu'ils doivent les répercuter, avec l'inconvénient que leur auditeur ne va pas hésiter à poser des questions, ce qu'il pourrait hésiter à faire auprès du maître, là, ça coince. Donc, opposition de l'Église catholique, opposition très, très virulente à l'enseignement mutuel de l'Église catholique. Deuxième souci, ça apprend trop vite. Ça apprend trop vite à lire, à écrire. On a des textes où on va mettre un terme à cet enseignement. Je ne sais pas si la citation est longue ou pas, si ça vaut le coup quand même. Il me reste 5 minutes, donc je finirai là-dessus. On a un texte quand même sur cet enseignement mutuel qui nous dit « Le plus grand service à rendre à la société serait peut-être d'imaginer une méthode qui rendit l'instruction destinée à la classe inférieure et indigente de la société plus difficile et plus longue. Cette instruction trop facilement acquise engendre à la fois cette nombreuse bureaucratisation qui dévore la France et cette foule dangereuse de désœuvrés qui corrompt les mœurs. Nous regrettons de voir Son Excellence faire la part de l'instruction trop forte au détriment de l'éducation. Il faut occuper les enfants de 4 à 12 ans, ne pas se laisser se créer ce vide qui permettrait une instruction de 20 mois. L'enseignement mutuel est révoltant parce qu'il apprend à lire, écrire, chiffrer machinalement. Donc ce long détour par l'enseignement mutuel, c'était simplement pour dire que l'enjeu, ce n'est pas d'apprendre. Si on voulait apprendre, il y a tout un tas de méthodes. L'enjeu, ça va être aussi de contrôler, ça va être aussi d'inculquer une idéologie, des références, des habitudes, un cadre de travail que l'école de la République va particulièrement réussir à faire. Mais deuxième temps, quand on étudie la presse un peu plus tard, autour de 1905, au moment où on rediscute de l'école 20 ans après les lois scolaires et au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, on s'aperçoit surtout, puis ça permettra peut-être de m'arrêter là et de lancer le débat, on s'aperçoit que cette école de la République, elle est unanimement condamnée par l'ensemble du mouvement ouvrier, mouvement socialiste, y compris modéré, jusqu'au mouvement syndicaliste le plus radical ou les anarchistes les plus radicaux. C'est-à-dire que cette école de la République, après, il faudrait rentrer dans les détails, pourquoi progressivement elle a été intégrée, peut-être pas forcément, d'ailleurs toujours à l'avantage des classes populaires, mais cette école, elle a été considérée dès le départ comme une école qui a remplacé le culte de Dieu, et là je reprends des formules qu'on trouve dans la presse de l'école, par le culte de la patrie et du coffre-fort. Et que cette école capitaliste, elle se crée bien avant Jules Ferry, mais elle se prolonge à travers les lois de l'école de la République. Et c'est cette école aussi que de l'intérieur, un certain nombre de syndicalistes au début du XXe siècle vont vouloir combattre, vont vouloir renverser en pratiquant ce qu'ils appellent, eux, l'action directe en pédagogie, en disant que c'est... Puisque l'institution, puisque pour tout un tas de raisons, il est difficile d'en sortir, même s'il se pose la question. Alors, il y a un moment, autour de 1905, tu parlais du service unifié d'éducation, je ne suis pas entièrement d'accord. Autour de 1905, les décisions de congrès syndicaux de la CGT, c'est de dire, on crée nos propres écoles. On ne veut pas de l'école de la République, on veut encore moins de l'école religieuse. Il y a des gens comme Francisco Ferrer en Espagne qui ont créé des écoles pour les ouvriers, pour les syndicats, etc. On veut faire la même chose. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas aussi parce qu'on est dans une période de discussion de la loi de séparation de l'Église et de l'État et dans une logique un petit peu stratégique. Ils se disent, bon, si on crée nos propres écoles, ça va être difficile ensuite aux autres d'empêcher les autres de les créer. Donc, en attendant, on va pas trop aller dans cette voie-là. Mais le fait que les instituteurs syndicalistes rentrent à cette même époque-là au sein de la CGT va faire qu'eux, ils vont arriver avec un discours en disant « Cette école, on va militer pour faire la révolution, mais on va aussi préparer la révolution au sein de cette école. On ne va pas simplement attendre les bras croisés, on va essayer d'enseigner autre chose. » Et puis là, je finis, ce sera Freinet, ce sera tout un tas de choses qui ont leurs racines un petit peu dans tout ce mouvement que j'ai essayé de vous raconter de façon très parcellaire, rapide et excusez-moi, un petit peu caricatural à certains moments, mais dans le débat, on aura le temps de rentrer dans le fond des choses. J'ai oublié plein de choses. Si, Jules Ferry, oui, l'école, il monte à la tribune, il dit avec l'école de la République, je veux clore l'ère des révolutions. Il a réussi.
Merci, Grégory. Je vous propose de réagir à ce qui semble être une lecture pas contradictoire de l'histoire, mais... peut-être divergente sur certains points, à la fois sur la question du diagnostic, sur qu'est-ce que l'école aujourd'hui, et évidemment, en creux, dès qu'on pose cette question, on a une autre question qui vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour la transformer, s'il faut la transformer, et en fonction de quel objectif. Moi, il me semble quand même, très rapidement, avant de vous laisser la parole, que les deux discours que j'ai entendus ne sont pas contradictoires. Le discours de Pierre Clément dit « on est rentré dans un néolibéralisme », qui est ce qui veut dire qu'avant, c'était une école libérale au service du capitalisme, ce que dit, au fond, Grégory Chambat. Sur le long terme, on est toujours dans une école au service du capitalisme, si ce n'est, si j'ai bien compris, que ces modalités ont profondément changé depuis une trentaine d'années. Donc, il n'y a pas forcément contradiction entre les deux discours, mais il y a dans la continuité des modalités ou des changements. Alors, j'aimerais...
La question, c'est qu'est-ce qu'on défend, alors, du coup ?
Alors la question c'est, est-ce que la salle a quelque chose à peut-être à ajouter ou à commenter sur cette présentation ou cette analyse socio-historique? Et du coup, effectivement, la question c'est, quelle école voulons-nous? Est-ce que c'est retourner à l'école pré-néolibérale parce qu'elle avait ses vertus, ou carrément penser à une autre école dans ses fondements mêmes, et quels seraient ses fondements? Donc, ce que je demanderais peut-être aux intervenants, aux participants, bien sûr, c'est de c'est difficile hein, de faire bref, de prendre le temps de parler quand même, mais de faire bref pour que tout le monde puisse, ceux qui veulent en tout cas, s'exprimer, que personne ne soit trop frustré. Voilà, la parole est à vous, il y a un micro. Voilà, très bien. Hein, quelques questions. Questions ou remarques?
Oui, j'aurais aimé avoir des compléments, si vous en avez, enfin vous en avez sûrement, mais sur la question des filles dans l'école. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les tribunes aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un gros reproche, hein, mais on fait comme on peut. Mais voilà, et notamment dans l'école de la commune, s'il y avait des choses à apprendre du côté de l'éducation des filles et de l'émancipation des filles.
On prend plusieurs questions ou plusieurs remarques.
Je peux meubler en attendant. Je peux. Ouais, mais du coup, le temps que je dise quelques mots. Oui, j'ai fait très très vite. D'habitude, je détaille aussi. Une école publique, publique pour Ferry, publique pour la commune, c'est pas la même chose. Laïque, laïque pour Ferry. Il y a dans les programmes scolaires de l'école de Jules Ferry, il y a l'enseignement des devoirs envers Dieu. Ce qui est laïque, c'est le personnel. Il n'y a plus les congrégations. Les personnels vont devenir fonctionnaires un tout petit peu après. Mais on n'est pas avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Hein. Donc l'école laïque de Jules Ferry, ce n'est pas la commune qui, elle, établit dès 1870 la séparation de l'Église et de l'État. Laïque gratuite, les deux sont gratuites, mais la commune fournit. Enfin bon, passons. Et alors, sur la mixité, c'est intéressant parce que l'école de Jules Ferry, absolument pas mixte. Tout au long du 19e siècle, il y a des textes vraiment hallucinants sur. Ils établissent dans les écoles de village où il n'y a pas moyen d'avoir différents bâtiments pour les filles et les garçons, il y a une cloison. Et suivant les fluctuations de régimes politiques plus ou moins légitimistes, voilà, la cloison et la taille de la cloison est réglementée hein, par loi et a tendance à augmenter ou à rétrécir. Les sorties, quand on est dans des écoles de filles et de garçons, quand on n'a pas le moyen de faire autrement, les sorties sont décalées dans le temps pour pas qu'ils se mélangent. Alors la Commune de Paris, qu'est-ce qu'elle instaure? La Commune de Paris, d'abord, pour les enseignants, pour les personnels, comme pour tous les fonctionnaires, elle établit l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les instituteurs et les institutrices ont le même traitement sous la Commune de Paris. Il faudra attendre 1920, il faut quelqu'un m'aide, 23, 24, je dirais, en France, pour que instituteurs et institutrices aient le même traitement. Sur ce qu'instaure aussi la Commune de Paris, c'est la même éducation pour les garçons et les filles, le même programme éducatif. Ils n'apprendront pas des choses différentes. Mais il n'y a pas de mixité. Il y a des textes de militantes de la commune qui demandent à ce que soit instaurée la mixité, mais la mixité ne sera pas instaurée. Voilà. Et alors, sous Jules Ferry, n'en parlons pas. Il faut attendre la même école, hein, toujours celle de Jules Ferry. Il faut attendre 60, 70, 1900 pour que ce soit instauré. Voilà. Et oui, juste pour répondre, parce que sur pédagogie et révolution, je ne me suis pas rendu compte, c'est une série de textes sur différents pédagogues, il n'y a pas une seule femme. Je n'avais pas remarqué, on m'a fait la remarque. Donc je travaille sur la suite qui sera que sur des pédagogues féminins, et il y en a, même s'ils sont souvent moins évoqués ou moins évidents au premier abord.
Bonjour. Moi, j'avais simplement une question sur plusieurs missions qu'on confère à l'école. Donc, le défi de l'objectif d'émancipation et puis celui de l'insertion professionnelle. Donc, je voulais savoir si vous pensez qu'ils sont compatibles et s'il y en a un des deux qui prime sur l'autre, compte tenu d'une période qui est pas caractéristique du plein emploi. Voilà.
Est-ce qu'il faut peut-être donner la parole à Pierre Clément sur cette question. Je crains que quand on aborde le concept d'émancipation, il faille ouvrir cette boîte immense, mais on va peut-être, Pierre Clément va peut-être se lancer. Donc, émancipation et néolibéralisme et utilitarisme professionnel, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que ça fait bon ménage ?
Il faut pas plusieurs.
Ah, pardon, oui, est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres. Oui, tu as raison, tout à fait, bien sûr.
J'ai deux questions. Une sur. Par rapport à la question de la Commune de Paris. Donc ça, j'avais déjà lu sur les choses sur les communes de Paris, sur le rejet par la CGT de l'école de Jules Ferry. Mais vous concluez en disant que c'est un combat qui continue jusqu'à nos jours. Or, il y a eu quelques décennies qui se sont passées depuis. L'école de Jules Ferry a peut-être été un peu remaniée par la lutte des classes depuis. Donc je trouve que c'est un peu rapide. Après, sur l'expérience qu'il y a pu y avoir, vous avez cité ce qui s'est passé en Espagne, donc est-ce que vous pourriez détailler là-dessus ? Par rapport à la question du néolibéralisme, donc moi je trouve que l'exposé est intéressant, mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est les conséquences pratiques de ce que c'est cette mise en concurrence généralisée, sincèrement, parce que moi j'ai mis longtemps, je suis dans le milieu de la santé, j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire dans le milieu de la santé, et c'est pas... Et je trouve que ce n'est pas très simple à savoir, parce qu'on est en face d'idéologues extrêmement déterminés, avec une idéologie du management qui est véritablement totalitaire. Mais pour en voir les conséquences et en comprendre le côté néfaste des conséquences, je crois qu'il faut quand même le dire. Merci.
Oui, bonsoir. Ce serait une question pour vous deux, mais... qui s'adresse plutôt à Pierre Clément. Vous avez dit que vous ne parleriez pas de la marchandisation de l'école. J'aurais quand même une question peut-être en lien avec. En fait, moi, j'aimerais avoir votre avis sur un point particulier. Il n'y a pas eu besoin, à mon avis, d'attendre cette phase, peut-être qu'elle soit à rupture ou pas rupture, en tout cas, cette phase néolibérale de l'école, peut-être une phase, pour qu'il y ait une adéquation entre l'éducation et le monde du travail. Donc je pense que économiquement, même avant cette phase néolibérale, on avait déjà une adéquation qui était claire entre l'école et le monde du travail, et ça certainement si on remonte au 19e siècle. Alors si économiquement la question était déjà résolue, quel est l'intérêt pour le néolibéralisme aujourd'hui de s'introduire à ce niveau-là dans l'éducation ? Est-ce qu'on est dans une optique qui est économique ? Disons économique en termes de profit, ou alors est-ce qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, peut-être anthropologique et qui est, ou philosophique, je ne sais pas, et qui est cette espèce de tendance du néolibéralisme à ne pas pouvoir s'empêcher d'aller partout, même s'il n'y a pas nécessairement du profit à trouver à la clé. Évidemment, il y a certainement du profit autour de la question de la marchandisation des savoirs, de la mise en concurrence. Mais à mon avis, il y a autre chose qui a l'air d'être complètement plus maladif, qui fait qu'on veut... Oui, je suis désolé de parler comme ça. Voilà, j'aurais voulu votre avis sur cette question.
Peut-être une dernière question. Celle-ci redouble un peu la première, enfin l'approfondit.
Alors, j'ai une première question pour Pierre Clément. Dans l'école capitaliste en France, Baudelot et Establé finalement montré qu'il y avait deux circuits de scolarisation et que finalement l'école reproduisait finalement une sorte de hiérarchie sociale. Est-ce que finalement le tournant que tu montres de cette école néolibérale favorise également en fait de la même manière ce circuit de reproduction en fait entre deux classes sociales antagonistes? Et puis une question pour Grégory Chamba sur les pédagogies actives. En fait au début du 20e il y a aussi des écoles privées, l'école des Roches, l'école libre de sciences politiques, tout ça s'inspire un petit peu du scoutisme. et qui sont en fait des écoles clairement conservatrices, destinées à l'élite, et destinées à restaurer finalement les structures d'Ancien Régime, quoi. Et du coup, je voulais vous demander s'il n'y avait pas des faux amis avec ces pédagogies actives, et finalement, est-ce que, dans quelle mesure ces pédagogies actives sont finalement conservatrices, ou dans quelle mesure elles peuvent être aussi émancipatrices ? Est-ce qu'on peut faire la distinction, parce que vous terminez sur un petit peu, vous ouvrez un petit peu là-dessus, et donc est-ce que vous pouvez en dire plus peut-être sur cette question-là, quoi ?
Ça fait beaucoup de questions. On fait peut-être un premier jet de réponse. Une première salve autour de la question du néolibéralisme et une deuxième salve autour des pédagogies actives, avec évidemment cette question que tu soulevais de l'alliance un peu perverse entre pédagogie progressiste et néo-management, mais peut-être en troisième temps. Donc, Pierre, sur la question du néolibéralisme, de l'émancipation, de la mise en concurrence.
Alors, sur la question de émancipation et, attention, insertion professionnelle, sur également le fait que l'adéquation entre le système d'enseignement et le système économique, c'est effectivement quelque chose qui ne date pas des années 80. Et ensuite, je répondrai sur les conséquences pratiques de la mise en concurrence telle qu'on peut commencer à les estimer, quoi, ou les évaluer. Il me semble que si on considère la mise en adéquation du système d'enseignement et du système économique, c'est pas une nouveauté. Il y a des discours au 19e siècle où on entend ça, qu'il faut créer justement d'autres types d'enseignement parce que ça répond aux besoins de l'économie et de l'évolution du monde tel qu'il va. Ça, donc c'est pas nouveau. S'il y a une rupture, à mon avis, elle est à situer dans les années 50-60, quand on va inventer, dans le cadre du Commissariat général au plan, les nomenclatures de formation, donc niveau 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et où on va dire il faut tant de produits du système éducatif qui sortent à tel niveau parce que l'économie a besoin de temps, etc. Donc ça, c'est une espèce de technocratisation ou de rationalisation de ce qui avant n'était peut-être qu'un discours sur la nécessaire mise en adéquation. Là, ça devient plus sérieux, parce qu'aussi on a les outils statistiques, les connaissances, on a les données justement pour réaliser cette mise en adéquation. Peut-être émancipation, et plus spécifiquement sur l'émancipation et l'insertion professionnelle, est-ce que c'est compatible ou pas? Les profs de l'enseignement professionnel se battent justement pour dire que s'il y a une justification à avoir un enseignement professionnel public qui soit donné dans le système d'enseignement et pas dans les entreprises, c'est précisément dans ce principe-là. C'est-à-dire qu'on peut enseigner, on peut donner un enseignement professionnel qui prépare effectivement à un métier, à la vie active, mais qu'on peut le donner dans un cadre scolaire et public, c'est-à-dire qu'on peut aussi donner les outils critiques, les outils théoriques pour s'approprier son travail, son environnement professionnel. Donc il ne me semble pas qu'il y ait de contradiction intrinsèque entre l'insertion professionnelle et un enseignement qui vise à s'insérer professionnellement et l'émancipation. Et si c'est effectivement pour tout le monde, quand on fait des études, par exemple, de sociologie, on prépare a priori son insertion professionnelle et on se voit délivrer dans le cadre des cours tout un tas d'instruments critiques, à la fois sur sa pratique professionnelle éventuelle, future, et également pour comprendre le monde social de manière plus générale. Donc il ne me semble pas que ce soit nécessairement antinomique. Ça se joue, à mon avis, dans la définition très concrète des contenus de l'enseignement, l'institution scolaire chargée de réaliser cette espèce d'adéquation. C'est là-dessus que ça se joue, mais j'y vois pas d'antinomie essentielle, quoi, au sens de l'essence, enfin, philosophique du mot essence, quoi. Alors, ce qui me permettra de répondre juste sur les conséquences pratiques de la mise en concurrence et sur si ce n'est pas la mise en adéquation qui caractérise le néolibéralisme, alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent, en gros, les néolibéraux ? Il me semble que ce qui différencie la période actuelle de la période des années 50 ou 60, c'est que, en gros, les gens qui travaillaient au commissariat général au plan se préoccupaient d'une adéquation au niveau macro-social. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il y a assez d'ingénieurs, qu'il y a assez de techniciens, qu'il y a assez d'ouvriers qualifiés, qu'il y a assez de professions intellectuelles, etc. etc. Là, c'est, à mon avis, un niveau, c'est de la thèse que l'on défend, mais plus... enfin, comment dire, la mise en adéquation se joue à un niveau plus infra et plus poussé, parce que ça s'insère, ça s'instille dans les contenus d'enseignement eux-mêmes, dans sa vocation, donc, les principes néolibéraux ont vocation à régir les contenus d'enseignement, les méthodes pédagogiques, les relations entre les élèves et les enseignants, les relations qui s'instaurent entre les enseignants entre eux, entre les enseignants et leur hiérarchie. Voyez quoi, donc c'est quelque chose de beaucoup plus... et on ne forme pas simplement un ingénieur parce qu'on a besoin d'un ingénieur, mais... on va former un ingénieur en fonction de à qui on veut inculquer, pour le dire très vite, un esprit d'entreprise et qu'on veut convertir à cet esprit-là. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair, mais je pense qu'il faut que je laisse la parole bientôt. Et juste sur les conséquences pratiques... on manque concrètement de travaux un peu empiriques sur les effets réels de cette mise en concurrence généralisée. À mon avis, ça transforme quand même assez sensiblement les rapports que les parents peuvent entretenir à l'école, par exemple. Je faisais une conférence auprès d'instituteurs du Puy-de-Dôme et qui me racontaient que les parents demandaient les résultats des évaluations nationale de l'école pour en gros avoir un indicateur objectif permettant de faire un choix scolaire rationnel pour le placement des enfants. Donc ça, c'est quand même sur le travail des enseignants. J'imagine qu'il y a des enseignants parmi vous. La mise en place du livret de compétences et des évaluations, ça transforme très concrètement le travail quotidien des enseignants, etc. etc. Donc, mais c'est des choses que l'on peut... j'ai pas les outils empiriques pour répondre, mais c'est ce type de transformation du métier, des pratiques professionnelles et du rapport qu'on entretient à son métier et à son éducation, quoi, pour le dire très très vite.
Merci. Sur la deuxième question qui interrogeait le rapport entre les pédagogies actives et la question de la reproduction sociale, si j'ai bien compris. Ta question,
Grégory. Micro. Non, il y aurait beaucoup de choses à dire et puis en les notant là, finalement, ça se recoupe. Donc, sans répondre directement à chacune des interventions, je vais essayer de dire des petites choses. Moi, je suis pas d'accord. Hein, le travail, je suis prof en collège à Mantes, dans les Yvelines. Compétence ou pas compétence, notre travail, il est de classer. C'est ça qu'on nous demande de faire, de classer, de trier. Que ce soit à travers des notes, à travers des compétences, la finalité, c'est pas ce que, je rappelle les ambiguïtés, hein, c'est pas ce qu'on fait dans nos classes, c'est ce qu'on attend au final de nous. Mais ce classement, et c'est là où on rejoint une question, moi, une hypothèse, une thèse, hein, que tu dois connaître parce qu'elle n'est pas de moi, elle est de Charlotte Norman, sur sa lecture de la nouvelle école capitaliste. La thèse serait dans quelle mesure cette introduction du néolibéralisme à l'école, qui se fait de manière finalement assez aisément, assez facilement, il n'y a pas des millions de gens dans la rue, du côté des collègues, du côté des parents non plus, sur l'introduction du néolibéralisme. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'un certain nombre de ces valeurs sont déjà... inscrite depuis l'origine dans cette école, triée, classée. Tu disais mettre en concurrence, mais Henri IV, Fénelon, Louis le Grand, la concurrence entre les établissements
de prestige et d'élite, elle est constitutive de l'école de la République française. Le fameux texte sur l'élitisme républicain, qui a été publié il y a 2-3 ans, je crois. C'est ça, une des spécificités, justement, dans les enquêtes PISA sur l'éducation nationale en France, c'est sa capacité, non seulement, tout à l'heure on parlait des inégalités, non seulement à reproduire ces inégalités, mais à la limite on pourrait dire l'école est neutre à ce moment-là. Il y a des inégalités au départ, il y a les mêmes à l'arrivée, elle a touché à rien. Non, le souci c'est qu'elle les légitime, ces inégalités. Elle fait rentrer dans la tête des gens que si on est nul à l'école, si on a des mauvaises notes, c'est parce qu'on vaut ces mauvaises notes, on est nul et on n'arrivera à rien. C'est là où les choses se jouent de manière particulièrement violente. Et là, moi j'ai envie de dire, compétence, oui, alors ça dépasse la séparation par discipline, mais les classements de notes, les appréciations, etc., elles ont aussi cette fonction-là. Enfin, il y a le très beau texte, je n'ai pas la référence, peut-être tu l'as, de Bourdieu, sur quand il analyse les commentaires, les appréciations de copies de prépa, je ne sais plus, il met les origines sociales et les commentaires. Enfin, si quelqu'un a la référence de ce texte paru dans les actes de recherche.
Ça s'appelle Les catégories de l'entendement professoral, voilà. Et c'est paru en 79, 15, je ne sais plus.
Bon, et donc, voilà, moi, c'est aussi quelque chose que...
Paru dans les actes de recherche en sciences sociales.
C'est quelque chose que je voulais creuser, c'est-à-dire la rupture par rapport à quoi ? Et nous, alors, dans ce projet d'émancipation, je suis d'accord avec toi, l'émancipation et le projet professionnel, c'est les discussions qu'il y a autour des années 1900-1914 sur une école de producteurs. Et quand on lit ces textes, on se rend compte que l'enjeu, c'est quoi ? Enfin, la réponse, c'est quoi ? C'est comment on définit un producteur ou un travailleur ? À partir du moment où on définit, comme le faisaient ces syndicalistes du début du XXe siècle, comme un être complet qui devrait avoir accès à l'ensemble des connaissances et à l'ensemble du système de production, l'origine des produits, etc. Oui, la finalité de l'école, c'est d'être une école de producteurs. D'ailleurs, le collège et le lycée, il appelle l'école professionnelle de la bourgeoisie. Ils disent que voilà, ce sont des écoles professionnelles pour une certaine partie de la population et qu'en tant que classe ouvrière, ces écoles ne répondent pas à leurs attentes. Donc, en fait, de quelle manière on va définir le producteur, le travailleur, etc., on peut très bien le rendre compatible avec une vision émancipatrice. Voilà, ça se joue aussi à ce niveau-là. Maintenant, très rapidement, ah oui, je n'ai pas encore répondu sur pédagogie, mais sur les transformations au sein de l'école de Jules Ferry, oui, c'est là où je me suis arrêté, c'est-à-dire que c'est aussi par rapport aux luttes au sein de cette école, à travers le combat notamment d'instituteurs syndicalistes, mais de parents, etc., que cette école, comme dit Foucambert, elle a autant transformé les dominés que eux l'ont transformé. Et que évidemment, si on n'est plus dans le schématisme, on s'aperçoit que cette école, elle est jouée par des tensions, des transformations, des conflits, des luttes. Et ces 15-20 dernières années, on a vu qu'il y avait ces luttes. Sauf que, attention où on va, ça me permettra de terminer sur la pédagogie. Attention où on va. Quand en 2003, il y a des collègues qui descendent dans la rue avec une banderole, Ferry revient, ils sont devenus fous avec le clin d'œil à Luc Ferry, Jules Ferry. Oui, mais... Qu'est-ce qu'on va revendiquer ? On va revendiquer les entreprises, le patronat en dehors de l'école. Oui, on va revendiquer le néolibéralisme en dehors de l'école. Oui, mais les parents qu'on a face à nous et les élèves qui sont avec nous dans nos classes, ils vont nous suivre quand on va leur proposer un modèle qui a fait faillite. Enfin, Angélique Delray, elle explique là dans son dernier bouquin sur la tyrannie de l'évaluation qu'un des éléments qui bloque dans ces luttes antilibérales ou dans ces contestations, c'est cette idée de contre-modèle qu'on n'arrive pas à proposer, qu'on n'arrive pas à mettre en face. Contre-modèle, ça ne peut pas être l'ancien modèle. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer un petit peu autre chose. Et alors, sur la distinction pédagogie active ou émancipatrice ou autre, ou voilà, pédagogie, il faut toujours lui ajouter un adjectif. Il y a pédagogie traditionnelle, il y a pédagogie du n'importe quoi, pédagogie néolibérale, etc. Donc, c'est ce qu'on va y mettre derrière. Parce que ça n'existe pas une école sans pédagogie. Hein, la pédagogie a fait le jeu du libéralisme. Non, mais toute école a une pédagogie, plus ou moins cachée, plus ou moins affirmée. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ?
Donc, juste un petit texte sur, qui me semble répondre. Ce qui est essentiel, ce n'est ni la manière dont les savoirs se transmettent, ni la quantité de savoirs existants que les dominés pourraient s'approprier, mais les conditions dans lesquelles des savoirs nouveaux vont être produits au plan individuel comme au plan social. En quoi une école associe-t-elle tous les individus à l'occasion de la construction de leur propre savoir à un processus d'élaboration de savoirs nouveaux ? Le problème fondamental n'est pas l'accès au savoir, mais l'accès à la production du savoir. C'est en cela que toutes les conceptions fondées sur l'élitisme, dans une perspective pédagogique de transmission des savoirs, sont par essence conservatrices. L'école des Roches, c'est 10 000 euros, je ne sais pas, par mois. Enfin, c'est un truc de folie. Donc, ces pédagogies émancipatrices, voilà, elles étaient le titre du premier bulletin de Célestin Freinet, c'était l'éducateur prolétarien. Ce n'était pas l'éducateur tout court. Aujourd'hui, c'est le nouvel éducateur. On pourra en discuter, mais le départ, c'est l'éducateur prolétarien. Son premier texte dans l'école émancipée, c'est non à au capitalisme de la culture. Donc, s'il n'y a pas une dimension politique et sociale dans cette réflexion pédagogique, oui, on va vers du... On a tout et son contraire.
J'ai vu une personne qui a levé la main. Je voudrais moi-même dire un petit mot. Je me présente, Jean-Charles Royer, je suis militant du groupe français d'éducation nouvelle et donc particulièrement amateur de pédagogie active ou plutôt constructiviste ou socio-constructiviste. Je suis très embêté quand j'entends dire que les pédagogies actives sont réservées finalement à une élite qui a déjà des connaissances qui peuvent... quand on entend et qu'on lit ce que les gens disent de la pédagogie active, je ne m'y retrouve absolument jamais. Donc il faudrait peut-être qu'on se mette un petit peu d'accord sur ce qu'on entend par pédagogie active dans la tête de beaucoup d'enseignants, d'instituteurs. C'est simplement, en fait, ça veut dire de la démagogie. C'est-à-dire on va donner des trucs sympas aux classes populaires, on va leur parler de rap et on va les faire réagir en suscitant leur intérêt. Bon, c'est pas du tout ça, la pédagogie active. En tout cas, ce n'est pas la pédagogie Freinet, c'est surtout pas la pédagogie socio-constructiviste. Donc il y a quand même des rigueurs à avoir sur la pédagogie, sur les diversités pédagogiques, avant de considérer que certaines seraient complices de la reproduction sociale. Bon, j'aurais envie de développer, mais on peut en discuter après. Il y avait quelqu'un qui a levé la main là-bas, non ? Madame ? Non, c'était nerveux.
Comment classe ? J'avais demandé avant, je tourne là-bas. Charlotte Norman sera avec nous demain en début d'après-midi, donc vous êtes invités à venir nombreux l'écouter. Je voulais justement relancer sur la question pédagogique, enfin sur le lien entre question sociale et question pédagogique, et sur l'intérêt de vous avoir tous les trois à la tribune ce soir. Mais je le reprendrai par un autre bout. Le néolibéralisme, il me semble... a une propriété politique très importante et qui joue à plein depuis une quinzaine d'années, c'est d'attaquer frontalement tous les corps de l'État et du même coup de les acculer à la défense de leurs invariants historiques. Et d'une certaine manière, on a vu se développer des résistances au néolibéralisme à partir du milieu des années 90, mais qu'on a vu effectivement buter contre une impossibilité ou une incapacité à définir des perspectives alternatives en matière de projet pour l'école, mais aussi en matière pédagogique. À tel point que certains de mes collègues, de mes amis, avec qui je me dispute parfois, en s'inspirant très directement des travaux de Pierre Bourdieu, font une sorte d'amalgame entre l'ensemble des pédagogies nouvelles, des origines à nos jours, pour y voir une inspiration de l'Église, du Parti communiste et au profit des classes dominantes, pour au profit d'une forme d'effondrement progressif de l'institution pour le plus grand bien des inégalités, de la domination, etc. Donc je pense que le minimum qu'on ait à faire, c'est intellectuellement de différencier ce que vous avez commencé à faire, mais ça serait bien d'aller plus loin peut-être, entre les différents courants qui se sont battus les uns contre les autres historiquement pour définir ce que devait être une bonne pédagogie, parce que je pense qu'effectivement entre la pédagogie de Freinet qui s'appuie sur le travail, sur l'auto-organisation, sur la proximité avec le milieu populaire et celle de Montessori, par exemple, il y a quand même quelques variantes, et on pourrait parler de Ferrer, de Makarenko, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de différenciation dans tout cela. Et puis peut-être surtout, on a vu se constituer, et c'est surtout ça, moi, sur quoi j'insiste dans ce type de débat, on a vu se constituer une vulgate pédagogique qu'a évoqué Pierre Clément tout à l'heure. Mais c'est cette vulgate pédagogique et la manière dont elle est agie, dont elle se traduit concrètement dans les classes, qui est l'objet de la critique des sociologues. Parce que la critique, elle existe malgré tout. Elle nous explique que dans cette forme pédagogique moyenne, modale, que l'on a vu se mettre en place dans les années 80-90, qui consiste à noter, mais pas trop, à enseigner un peu tout, mais sans trop faire répéter, sans trop faire d'exercice, en s'inspirant de très loin de ce qui a été compris des pédagogies nouvelles et de l'idéologie 68arde, mais qu'on a un peu républicanisé quand même, etc., c'est constituer une manière de pas approfondir, de pas expliciter, et des travaux, ceux de Pernous, de l'équipe ESCOL, la plupart, à vrai dire, des travaux de sociologues de l'éducation qui ont travaillé sur ces questions pédagogiques montrent que ces modèles-là, quand ils sont dans une espèce de laisser-faire accommodant, sont, eux, inégalitaires. Le problème, c'est qu'ils font écran, historiquement, pour nous, par rapport à ce qu'a été l'héritage, le legs historique des expérimentations pédagogiques qui, encore une fois, étaient extrêmement variées et qui posaient d'autres fins, mais aussi d'autres techniques très concrètes pour frayer des voies nouvelles pour la pédagogie et pour l'école. Et si on veut traduire ça idéologiquement, bien sûr, il n'y a pas de solution à ces questions-là, à ces contradictions, sans poser la question de l'égalité et de l'émancipation, et en critiquant la notion d'égalité des chances, qui va de pair avec l'élitisme et avec la concurrence. Mais malgré tout, on peut aussi revenir plus spécifiquement aux expériences pédagogiques. Et donc ma question, c'est éventuellement votre regard sur cette histoire pédagogique dans ces différenciations. Je pose la question à tous les trois, du coup. Mais aussi, peut-être, dans les débats auxquels vous participez, nous, c'était un peu le sens de ce débat avec vous ce soir, mais dans les débats auxquels vous participez, est-ce qu'on commence un peu à dépasser cet état d'esprit purement défensif qui a caractérisé les résistances scolaires depuis 15 ans? Est-ce qu'on commence un peu à sentir l'aspiration à autre chose dans l'expression que peuvent avoir les enseignants, notamment?
Merci. Il y a peut-être question. D'autres questions. Il y a beaucoup de choses dans ton intervention.
Oui, ça va un peu dans le même sens. Juste une petite remarque au passage. Je crois que la figure du prof démago, elle est assez omniprésente dans les salles des profs. Et ça explique aussi peut-être pourquoi ce mot, la démancipation, il ramène pas beaucoup de monde de ce milieu-là. En tout cas, j'en vois encore moins que cet après-midi des profs. Peut-être que si on avait mis éducation et remplissage du livret personnel de compétences, on aurait eu plus de bataillons. Alors juste, moi, c'était pour parler des clivages d'aujourd'hui entre les acteurs de l'éducation, et particulièrement ceux qui la font, justement, les profs. Si vous pouviez nous en dire plus sur où sont les clivages autour de ce mot d'émancipation, voilà, et pas juste... Enfin, l'émancipation, oui, en général, et peut-être la remise en cause de la place du maître aussi dedans.
Oui, alors tout ça, dans les 20 minutes qui restent, ça va pas être facile.
On prend une dernière question.
Alors, sur l'intervention, peut-être, je crois, Pierre Clément, tu as été convoqué sur cette alliance entre les pédagogies un peu galvaudé, le néolibéralisme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de notre résistance ou de notre posture de défense? Est-ce qu'on a bougé? Enfin, je parle du « on », le corps enseignant, le milieu éducatif. Ou est-ce qu'on est crispé sur « il faut absolument sauver les invariants ». Quels sont-ils d'ailleurs? Et peut-être ensuite, Grégory, sur revenir sur la question des pédagogies actives.
Alors là-dessus, à la fois sur les clivages contemporains,
qui traverse le champ éducatif et sur justement cette espèce de, d'alliance a priori contre nature entre certains pédagogues et certains réformateurs néolibéraux. Je pense qu'il faut être très concret, quoi. La loi de 2005, qui est la dernière en date, elle s'est faite, elle est passée sur une alliance entre des syndicats réformateurs, réformistes, comme ils se qualifiaient eux-mêmes, donc le SGEN, l'ESE, UNSA, la CFDT en tant que confédération, et une mouvance pédagogique avec qui se réunit souvent autour de la Ligue de l'enseignement, dont la Ligue d'enseignement est souvent un peu le pivot, et auquel donc ont participé des mouvements pédagogiques parmi les plus connus. L'exception étant le GFEN qui s'est tenu à bonne distance de cette enfin voilà, je dis pas parce que j'étais là mais c'est un fait quoi, à bonne distance de cette alliance là. Alors sur les clivages contemporains, c'est-à-dire pas de 2005 mais d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à la fois les mouvements pédagogique et en question et les syndicats réformistes en question ont fait donc le pari d'une alliance objective avec la droite politique, donc en, l'UMP en l'occurrence, et s'en sont en quelque sorte mordu les doigts puisqu'ils ont envoyé une lettre à Vincent Peillon en juin en lui expliquant que le socle commun, qui était le cœur des projets qu'il portait, avait eu deux conséquences. C'est que à la fois, ça justement introduisait des logiques gestionnaires massivement, et deuxièmement, que ça rétablissait une espèce d'écolade de vitesse, notamment en favorisant une élimination plus précoce dès le collège. Donc, cela sans remettre en question les principes qui avaient été qui avaient justifié leur prise de position antérieure. En gros, ils disent les principes sont bons, mais la mise en œuvre, elle, a laissé désirer parce que c'était un gouvernement de droite et ils espèrent, je pense, je connais pas la position actuelle, très très actuelle, mais ils espèrent d'un gouvernement de gauche socialiste que les principes et la mise en œuvre aillent de pair. Donc ça, c'est pour répondre un peu à la... est-ce qu'on dépasse cet état d'esprit défensif pour répondre à la question de Bertrand? Il me semble que cette fraction-là espère encore une sorte par le haut, en tout cas c'était le cas au mois de juin, mais sur des principes anciens, au sens ancien constitué dans les années 90. Et il me semble qu'ils ne sont pas, à quelques exceptions près, par exemple Philippe Mérieux a eu des positions plus critiques sur... mais toujours... Il faut suivre le vent aussi, quoi, sur la notion de compétence. Après, dans les très concrètement, enfin, ce qu'on peut, moi, j'ai fait pas mal de rencontres, dont une il y a un an jour pour jour ici autour de notre livre. Effectivement, on sent qu'il y a une attente forte sur définir autre chose. Mais concrètement, nous-mêmes, on essaye d'y travailler, et ça me paraît extrêmement embryonnaire et extrêmement délicat, quoi, ou c'est embryonnaire, je crois que c'est le meilleur terme. L'attente est là, c'est sûr, mais après, peut-être ce qui est peut-être le plus stimulant, c'est les initiatives qui dépassent justement l'éducation nationale, comme l'appel des appels, dont je ne fais pas partie, mais voilà, qui essaient justement de mettre un peu en regard, en commun, différents des gens qui travaillent dans des champs différents en disant vous êtes confrontés, c'est des gens qui travaillent dans des champs différents qui disent nous sommes confrontés à de mêmes problématiques. Donc ça permet d'avoir des réponses aussi qui dépassent un peu le cadre éducation nationale au sens strict.
Merci.
Sur le mot émancipation, il me semble démonétisé complètement, quoi, et voire inusité. Donc,
Grégory.
Ouais. Alors il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de répondre d'abord d'un point de vue un petit peu de donner des billes d'ensemble sur les pédagogies, puis après d'apporter et mon avis et de réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites. Bon,
là, sans te couper, il faut qu'on libère la salle hein, dans peu de temps, donc si tu peux faire au plus court.
D'accord, au plus court. Bon, rapidement, en France en tout cas, parce que la France elle a une histoire assez particulière en matière de pédagogie, on va dire qu'on a deux courants de pédagogie. Alors c'est toujours, voilà, moi je vais les appeler émancipatrices, ou enfin pédagogie, on va dire active, bon. Alors, il y a le courant de l'éducation nouvelle, qui est un courant plutôt, au départ, porté par une dimension, on va dire, scientifique, à travers des recherches d'universitaires. Je parle, là, je suis fin 19e, début 20e, d'universitaires, de médecins, et qui vont questionner, de ce point de vue-là, quelle serait la meilleure éducation possible, d'un point de vue scientifique, rationnel. Voilà. Et puis, donc ça, c'est un courant qui va évoluer, qui va se politiser après la Première Guerre mondiale, mais aussi après la Deuxième Guerre mondiale, qui va évoluer dans différentes branches. Alors, il a été évoqué Maria Montessori, qui est une pédagogue médecin, justement, pédagogue italienne, qui va mettre en place des méthodes, des méthodes pédagogiques assez intéressante, basée notamment sur la manipulation d'objets, le travail d'autonomie des élèves. Bon, avec cette très grande spécificité que ce sont des écoles privées, payantes, chères, et qui en font un élément fondamental de leur discours et de leur pratique. Non seulement c'est des écoles privées, mais on pourrait se dire parce qu'on ne veut pas d'eux dans l'éducation nationale, mais c'est revendiqué en tant que tel. Qu'elles ne veulent pas s'intégrer à un réseau gratuit, à une institution. Voilà. Et les formations pour être instituteur ou institutrice sont payantes et extrêmement coûteuses. Mais ça ne résume pas l'éducation nouvelle. Il y a le courant, le groupe français d'éducation nouvelle, créé dans les années 20, qui va œuvrer beaucoup, d'abord dans le sens d'une, je parle sous contrôle, hein, tu rectifies, démocratisation du système scolaire, qui va intervenir beaucoup pendant le Front populaire, aussi, je crois. Et puis, notamment après-guerre, avec le fameux plan Langevin-Vallon, maintenant, aujourd'hui, on a du mal à le lire. C'est pas simplement permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'école le plus longtemps possible. Enfin, tu le dis mieux que moi. Je te laisse la place, après, je reprendrai sur Freinet.
Je vais très vite. Hein. Bon. Ouais. Oui, je te laisse après. T'as raison d'avoir peur. Le mot d'ordre, je vais pas faire un exposé historique, mais le mot d'ordre de l'éducation nouvelle ou de l'éducation nouvelle, c'est le tous capables, qui est maintenant presque un slogan repris un peu par tout le monde. Ça s'appuie sur l'idée que tous les enfants, quels qu'ils soient, ont une intelligence, en tout cas virtuellement capable, à condition d'être mis en condition d'eux, qu'il n'y a ni don, ni d'élèves doués, ni non doués, ni handicap socioculturel, en tout cas définitif, et que, partant de ce postulat de l'égalité des intelligences, la mise systématique en activité intellectuelle et je dirais rigoureuse, pas simplement exciter l'intérêt, occuper l'élève pour pas qu'il s'agite et pour pas qu'il traîne dehors, donc vraiment avoir une grande exigence intellectuelle alliée à des pratiques de coopération de classe, des coopérations de groupe et des coopérations de recherche. Ça définit, on va dire, l'éducation nouvelle. Moi, je parlerais plutôt des années à partir des années 60, parce qu'il y a une rupture. Enfin, bon, bref. Ouais. Donc voilà, je dirais exigence intellectuelle, construction du savoir et pratique de coopération, tout ça dessine un projet politique, dessine un
pour pas dire un peuple, disons une population capable de s'organiser de manière assez solidaire et prendre en charge l'organisation de la société. Donc c'est vraiment articulé à un projet d'émancipation politique collective, à rebours du coup de l'individualisme concurrentiel pour gagner les places dans les grandes écoles. Enfin, vraiment. Donc derrière les pédagogies se cache aussi quand même une vision anthropologique, une vision politique.
Alors, sans que ce mouvement s'oppose à celui dont je vais parler, il y a un autre mouvement de pédagogie active, alternative, qui a d'autres racines et qui sont des racines qu'on va trouver dès le 19e siècle, plutôt au sein du mouvement ouvrier, au sein du mouvement socialiste, à travers d'abord des réflexions, surtout du mouvement libertaire, ça part de Proudhon, quoi, en gros, qui va essayer de réfléchir à comment, qui va considérer qu'on ne peut pas apprendre la liberté dans l'autorité, et qu'on apprend la liberté dans la liberté. Et qui va donc réfléchir à une pédagogie et à une éducation qui ne soit pas en contradiction avec ses finalités, qui dès le début applique les principes qu'elle tend, et qui va donc s'appuyer d'abord, au départ, sur un projet politique. Et à partir de ce projet politique, on va réfléchir à une éducation. Proudhon, la Première Internationale, d'autres, Robin, etc., vont croiser cette réflexion sur la liberté dans l'enseignement par une réflexion sur l'égalité. C'est-à-dire qu'on apprend aussi, on vise aussi l'égalité sociale à travers cette éducation. Je vous ai parlé de la Commune qui essaie d'instaurer un petit peu ça. Il y a des réalisations concrètes comme l'orphelinat de Sans-Puits de Paul Robin, puis la ruche de Sébastien Faure, enfin des petites expériences comme ça. Voilà. Et qui vont se retrouver en France avec cette particularité que, après la Première Guerre mondiale, mais déjà un petit peu avant, très vite, la contestation pédagogique de l'école, elle va se trouver concentrée au sein de l'institution. Montessori en France, c'est assez marginal, même si je trouve qu'il y en a de plus en plus des écoles, mais voilà. Et ça va être porté par un mouvement qui n'existe pas avec une telle puissance et un tel développement dans d'autres pays, c'est le mouvement Freinet, qui est un mouvement de transformation pédagogique au sein de l'institution publique et non pas en dehors, avec les élèves qui sont les élèves du quartier, de l'école, du village, voilà, sans choisir ces élèves, comme peuvent le faire certaines expériences pédagogiques. Et ce mouvement, il vise à travailler, donc, j'ai dit, au sein de l'institution, avec au départ un projet politique révolutionnaire, affirmé, syndical. Freinet, c'était un militant syndicaliste. Et il écrit, nous, on n'attend pas la révolution en croisant les bras, on attend la révolution en la préparant dans l'école. Et c'est ça leur projet. Et c'est donc un projet social affirmé. Alors, là où je pourrais rejoindre certaines critiques, c'est que aujourd'hui, en gros, à partir des années 80, ce mouvement a, pour différentes raisons, mis de côté ses racines politiques et ses origines sociales et ses origines de lutte pour s'ancrer, pour insister davantage sur l'aspect pédagogique. J'ai pris caricature, mais ça a d'autres raisons, mais on passe de l'éducateur prolétarien et aujourd'hui, ça s'appelle, le bulletin, c'est le nouvel éducateur. Donc cette dimension politique, mais en même temps, aller vendre l'éducateur prolétarien dans une salle des profs, faut s'accrocher, donc je prends ça comme, comme illustration. Qu'une partie du mouvement pédagogique ait perdu cette dimension politique de contestation. Certes, n'empêche que le travail qui est fait dans ces classes par rapport à un travail dans d'autres... quand on apprend aux élèves à s'organiser en conseil, à tenir une réunion, à prendre la parole en public, à prendre des décisions, pas simplement par le vote, mais par tout un tas d'autres systèmes mis en place, etc., à produire des textes libres, à les imprimer, à les diffuser, moi, je ne vois pas ce que le néolibéralisme il a gagné à ça. Donc, à mon avis, c'est plutôt des contestataires qui risquent de sortir ces écoles que des préformatés. Dans les prépas, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, ce n'est pas la pédagogie Freinet qu'on applique. C'est bien les bonnes méthodes traditionnelles qui coûtent un pognon fou à tout le monde, 4 fois plus qu'un étudiant normal. Et là, c'est là où se forme l'élite, les futurs cadres dirigeants. Ils sont formés avec des devoirs de 6 heures sur table, où il faut écrire, comme ça, des colles, des systèmes de devoirs à la maison, incroyables, etc. Je dis ça parce qu'il y a un excellent livre qui s'appelle « Les bons élèves » qui vient de sortir. Donc, Je vais très très vite sur le SGEN, CFDT. Dire que le SGEN est pédagogue, c'est comme dire que la CFDT est autogestionnaire. C'était il y a 20, 30, 40 ans. Je pense que leur signature, c'est des démarches.
J'ai pas dit ça,
mais... Non, mais c'est des démarches
politiques. Non, j'ai pas dit ça.
Ouais, mais parce que qui sont les pédagogues? Moi, je les vois pas au ministère, les pédagogues. Les pédagogues, pour moi, c'est 84 établissements expérimentaux, les lycées autogérés qui sont créés. Hein, Saint-Nazaire, Paris, Oléron et en Normandie, Hérouville-Saint-Clair. Après, il y a eu d'autres petites... Mais ça, c'est des démarches pédagogiques qui étaient, d'une certaine manière, en rupture. Une rupture sur les emplois du temps, une rupture sur les disciplines. Les collègues qui intervenaient en double ou en triple autour de projets, etc. 84, c'est fini. 84, c'est qui le ministre? C'est Chevènement. Il faut apprendre la Marseillaise. On remet. Moi, s'il y a ligne de fracture en ce moment, pour moi, celle qui est dangereuse, c'est entre une conception réactionnaire qui revient de manière très, très virulente, très, très forte, les Polonies, les Finkielkraut et tout ça, et tous les livres dont on nous abreuve à chaque rentrée, qui nous font croire le niveau qui s'écroule, etc., qui joue sur les peurs, qui joue sur les craintes, les barbares sont à nos portes, et qui nous vendent quoi? Le retour à l'école que je vous ai présentée, celle de Jules Ferry, celle où on n'accepte pas les pauvres au collège et au lycée. Dans le programme de l'UMP, il y a rétablissement de l'examen d'entrée en sixième. C'est-à-dire une sélection qui est, c'est ça qui les gêne. Hein, c'est, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, rétablir l'école à deux vitesses. Bon, on y est, l'école à deux vitesses. Non, après, c'était... Si, et sur les débats. Oui, comment les gens interviennent dans les débats? D'abord, il y a une réaction par rapport à cette école de Jules Ferry, parce que c'est pas forcément l'image qu'on nous en a donnée. Et je pense qu'il est important de la déconstruire, parce que sinon, on va construire sur du vent. Et puis là, on est des gens convaincus, mais attention au discours qu'on tient sur l'école aux parents. Parce que si on leur dit, mais l'école, c'est bien, voilà, c'est formidable... Ils se leurrent pas, les parents. Ils voient bien que tout le monde n'arrivera pas, que c'est joué dès le départ. On voit bien qu'on leur tient un discours ambigu. Donc, moi, je pense qu'il faut déconstruire ce système.
Alors, il reste quelques minutes. Moi, j'ai une toute petite intervention à faire sur ce qui bouge. Je sens dans le milieu professionnel que la question de... on revient à l'ancien, on ne bouge pas le statut, on est vent debout contre tout ce qui peut être réformé, ça commence à craquer. Ça commence à craquer, il y a moins d'enthousiasme. Et j'ai été très intéressé les années précédentes sur le mouvement autour de la désobéissance. Là, il y a eu des collègues qui se sont dit, bon, moi j'ai des convictions, je ne vais pas attendre les ordres. Il me semble aberrant, il me semble contraire à l'esprit du métier, je vais désobéir. Alors, je n'ai pas fait ce pas-là, mais j'étais avec d'autres collègues à deux doigts parce qu'on était dans une totale aberration en termes de philosophie de l'éducation. Donc, il y a peut-être ce mouvement-là qui peut grandir. Alors, ça pose des nouvelles questions, hein, c'est-à-dire l'unité syndicale. Enfin bon, ça pose des problèmes. Il y a la question cruciale de la formation continue, qui me semble, bien sûr, de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, qui est tellement explosée, tellement détruite, qu'on ne peut absolument rien faire en termes de travail pédagogique au long cours. Et je dirais, ça va peut-être pas du tout être accepté par Pierre, mais que la question de l'article dérogatoire, c'est-à-dire investir les petits lieux d'expérimentation, je pense à tous les micro-lycées qui se sont créés à droite à gauche en Île-de-France, et je fais partie d'un de ces établissements, nous donne, si on a envie de s'y investir, ça coûte en temps, finalement pas mal de liberté. Alors il y a aussi des ambiguïtés parce que c'est peut-être une manière de faire effondrer le système en sauvant deux, trois périphéries exemplaires. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessous. Donc voilà, investir les espaces, être prêt peut-être à désobéir et militer très fortement pour une pensée renouvelée de la formation. Voilà, enfin, ça serait ma réponse.
Pierre, là-dessus, on tarde pas trop.
Voilà, il est 11 heures, alors moins 5 parce qu'il paraît que la pendule avance.
Ah bah alors,
bah oui.
On s'arrête peut-être là, à moins qu'il y ait des gens très frustrés qui voudraient...
De toute façon, on reprend les débats demain à 14h avec Charlotte Norman, puis Jean-Pierre Terrail, Charles Soulier. Donc on aura l'occasion largement de reprendre différents aspects du débat engagé ce soir. Et on vous remercie tous les trois chaleureusement. Et on vous retrouve demain.